Ce balado est un contenu publicitaire payé par Desjardins.
J'en parle beaucoup, moi, dans mon parcours, que c'était difficile au début de m'imaginer ou même de rêver de travailler à la NASA, par exemple, parce que je voyais pas de Québécoise brune immigrante qui travaillait là. Encore moins
de Joliette.
Mais tu sais, quand tu ne te vois pas dans un certain domaine, mais tu te donnes pas vraiment la permission de rêver. C'est comme être un joueur à la NFL ou travailler à la NASA. T'sais, c'est quand même des grands rêves. Tu te dis, OK, peut-être que je me rendrai pas, c'est possible, mais je vais prendre chaque étape une à la fois pour essayer de suivre ce rêve-là.
Je m'appelle Laurent Duvernay-Tardif. Puis à l'invitation de Desjardins, j'ai demandé à des gens de partout au Québec qu'est-ce que ça veut dire pour eux être ambitieux. Parce que le mot ambition n'a pas toujours une connotation positive. On a une relation bien particulière avec ça. On veut réussir, on veut du succès, mais on veut surtout pas avoir l'air de s'en vanter. Bref, je me suis dit qu'on était dû pour plonger ensemble au cœur de l'ambition. Au dernier épisode, on a retracé le parcours de certains des entrepreneurs les plus ambitieux du Québec. De la toute première motoneige de Bombardier jusqu'à l'expansion nationale du groupe Germain, il n'y a pas de doute que ces gens-là ont façonné le Québec d'aujourd'hui à leur façon. Mais aujourd'hui, je vous propose qu'on sorte de nos frontières puis qu'on ait rencontré des gens qui se sont illustrés à l'international. Des gens qui sont devenus des sommités dans leur domaine. Je me demande, c'est quoi la recette secrète? C'est quoi l'ingrédient du succès qui leur permet de rayonner? Puis on commence avec nul autre que Farah Alibé, une femme brillante que j'admire beaucoup, qui s'est taillée une place de choix dans plusieurs missions de la NASA. Elle a même piloté le fameux robot Perseverance qui sillonne Mars depuis 2021. Bon, le lien est peut-être un peu facile, mais de la persévérance, une chose est sûre, Farah en a pas manqué dans sa route jusqu'à Mars.
Pour moi, l'ambition, c'est d'avoir un grand rêve puis de le suivre.
Puis est-ce que c'est plus facile de rêver puis d'être ambitieux quand il y a déjà des gens qui sont passés par là, ou il y a une certaine naïveté à ne pas savoir comment s'y rendre qui fait en sorte que ça fait moins peur?
Ouh, non, je pense que c'est plus facile de rêver et d'être ambitieux quand tu vois quelqu'un d'autre qui te ressemble un peu ou qui vient de ton coin, qui le fait. T'sais, pour moi, ça a été au primaire, c'était Julie Payette. Quand elle est allée dans l'espace, je pense qu'elle était sur la couverture du magazine, genre 7 jours ou quelque chose, ma grand-mère me l'avait donné. Parce que dans le temps, il n'y avait pas d'Instagram, j'avais pas d'Internet encore. C'est comme ça qu'on découvrait les gens. Et j'avais fait une présentation orale sur elle. J'avais appris qu'elle était ingénieure. Puis là, je m'étais dit, ah, OK, c'est comme ça qu'on va dans l'espace. Il faut que j'apprenne l'anglais. Il faut que je devienne ingénieur. Je pense que c'est vraiment de là que c'est venu. Encore là, quand tu dis quand quelqu'un fait quelque chose puis que ça déclenche quelque chose en toi, mais pour moi, c'est elle. Ça a comme fait, ah, OK, c'est possible. T'sais, c'est quelqu'un de chez nous qui a fait ça.
Je suis pas capable de connecter tous les points entre ton parcours d'immigrante qui est arrivé à Joliette puis une ascension fulgurante jusqu'à la NASA. Est-ce que tu te pinces des fois?
Je pense que ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est plus les dernières années depuis que les gens me connaissent au Québec. C'est cette partie-là que j'avais comme pas planifiée. Ça faisait pas partie de mes ambitions. Mais comme quand les gens me reconnaissent dans le métro ou que quelqu'un vient me dire « Hey, je suis allée faire ces études-là parce que tu m'as inspirée », ça, c'est spécial.
C'est sûr que le parcours de Farah a inspiré des centaines de jeunes ambitieuses au Québec, de la même façon que Julie Payette avait inspiré la jeune Farah à l'époque. Puis c'est ça qui est beau de l'ambition, c'est que ça se transmet, ça devient des inspirations, des modèles. Puis peu importe le domaine, au bout du compte, ce qu'on retient, c'est la persévérance, c'est les valeurs. Puis moi, c'est ça qui m'a motivé, c'est de voir des gens qui ont eu du succès à l'étranger puis qui me fait rendre compte que c'était possible pour le jeune Laurent de rêver à la NFL. Mais c'était pas possible d'y rêver seul, fallait être accompagné. Puis ce qui est drôle, c'est que quand je parle de la NFL, ben je parle souvent on se prépare pour la prochaine saison, on se prépare pour le camp d'entraînement, mais je fais pas référence au on comme l'équipe sur le terrain, mais plus l'équipe à l'extérieur du terrain. Je pense évidemment à mon amoureuse Florence, mais je pense aussi à mon meilleur ami qui est devenu mon agent, Sacha Gavani.
Tu sais qu'on a commencé ensemble, Laurent et moi, on a 21-22 ans dans ces eaux-là. Il était très bien classé au niveau des prochains espoirs pour le repêchage de la Ligue canadienne de football. Puis on avait un ami commun qui m'avait dit « Ah, Laurent, il y a des agents qui courent après, mais il y a ça de parler, voir si ça t'intéresse. » Quand j'ai présenté mon plan, je pense qu'il me trouvait un peu fou. Maintenant, avec du recul, je me disais que c'était peut-être plus facile que ça l'était, là. Mais dans ma tête, je regardais ses résultats de test physique, je regardais ce qu'il représentait, je suis comme « Il va jouer dans la NFL. » Moi, c'était clair. Fait que là, je présente mon plan, il embarque dedans, on envoie les vidéos aux équipes, on trouve un endroit où est-ce qu'il peut s'entraîner. Les joueurs de foot, pour leur évaluation pré-repêchage, ils font faire plein de tests physiques. Lui, dans son cas, il n'avait pas été invité au combine de la NFL. Fait qu'on a organisé un Pro Day, qui est une journée de ces tests-là à l'université, à Montréal. Fait qu'il y a des recruteurs des équipes de la NFL qui sont venus à Montréal au plein mois de mars pour venir le voir, lui, faire les tests. Il y avait 9 équipes qui sont venues le voir de la NFL, dont les Chiefs. Il y avait quand même beaucoup de gens, là. C'était un gros événement.
Ce que je retiens de cette journée-là, c'est pas les performances, c'est vraiment l'ambiance que Sacha avait été capable de créer. C'est d'avoir les amis, la famille qui viennent voir performer, d'avoir quelques médias. Ce que je retiens aussi, c'est d'avoir mes parents avec des plateaux de viennoiserie qui offrent le déjeuner aux recruteurs de NFL, d'avoir la mère à Sacha qui prépare le traiteur pour s'assurer que tout le monde mange à sa faim. Puis on dirait que ça a fait en sorte que c'était ensemble qu'on allait vivre ce projet-là. Que ça y donnait du sens, puis c'est ce qui a fait que j'ai battu mes meilleures performances.
À ce moment-là, tu sais, d'être joueur universitaire canadien puis d'être repêché dans la NFL, c'était extrêmement rare. Tu sais, je me rappelle, à une semaine du repêchage, j'écoute à la télévision sur la chaîne de la NFL, puis ils parlent de 2 joueurs qui sont sous le radar, qui vont être des super bons joueurs au repêchage. Laurent Duvernay-Tardif de McGill. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, on est rendu à parler de lui à chaîne américaine, alors que, tu sais, il y a 6 mois, il était à McGill, il faisait ses affaires. Fait que le duo qu'on forme, il est le fun, parce que on a confiance un envers l'autre, et ça fait en sorte qu'on a moins peur de se lancer, de viser plus haut encore. Depuis que j'ai peut-être 10-11 ans, mon but de vie, c'était d'être agent d'athlète. C'est ça, mon rêve de kid. L'agent, c'est une extension de l'athlète. Ça veut pas dire que tu te challenges pas, ça veut pas dire que t'essaies pas d'amener ton point de vue quand t'es en désaccord, mais l'idée, c'est de comprendre la réalité de l'autre mutuellement. Fait que moi, c'est ça que j'aime beaucoup de ce travail-là, c'est les relations que tu développes, puis le fait que ça peut être plus que juste une fois par année, OK, je fais ton contrat, qui est bonne saison. Faut que ça soit quelque chose de plus agréable, plus humain que ça.
Aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que malgré que ma carrière de football est terminée, bien, celle de Sacha comme agent d'athlète continue de rayonner puis représente maintenant des dizaines d'athlètes dans plein de sports différents en Amérique du Nord. Puis ça, pour vrai, bien, ça me rend fier parce que j'ai l'impression de l'aider de la même façon qu'il m'a aidé à réaliser nos rêves de petit gars. OK, là, on quitte les terrains de football puis on se tourne vers le milieu des arts. On s'en va à la rencontre de Manuel Mathieu, un gars vraiment trippant qui est arrivé au Québec à l'âge de 19 ans. C'est un peintre, un sculpteur. Il expose partout dans le monde. Ce qu'il fait, c'est coloré, c'est texturé, mais surtout, ça parle de la riche histoire d'Haïti, son pays d'origine. Moi, j'ai eu envie de savoir comment Manuel était arrivé à briller sur la scène internationale. Puis pour ça, ben, il faut remonter jusqu'à sa chambre d'ado.
J'ai fait une installation dans ma chambre, d'abord. Donc, ça a été ma première vraie œuvre, je peux dire. J'invitais les gens à signer avec l'esprit. J'avais un bois de bambou qui traversait la salle avec des condons, une tête de squelette. Je veux dire, ma mère pensait que j'étais complètement perché, tu vois. mais je pense que c'était nécessaire parce que ça a été une éclosion pour moi, à cette époque-là.
Est-ce que c'était comme... une volonté d'exprimer quelque chose que tu avais en toi?
C'était une manière d'exister, au fait. Parce que à cette époque-là, j'avais pas le jargon universitaire, tu vois.
De pouvoir expliquer la démarche.
La recherche, tu vois. Puis je pense que c'est bien. Je diminue pas ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai apprises sur le tas.
Ouais.
Parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques.
Ce sort de sang commun, t'as aucune idée.
Non, mais
t'as un rêve, mais t'as aucune idée.
Aucune idée.
À tout juste 38 ans, Manuel a déjà exposé à Pékin, à Miami. Il a même lancé sa ligne de parfum en France. Puis pour lui, ben, c'est un privilège de voyager autant parce que ça lui permet de mieux voir comment sa démarche artistique s'inscrit dans différentes cultures puis de comprendre sa place dans le monde.
Est-ce qu'on compare? Parce que pour moi, je regarde l'histoire de l'art québécois, je pense à Riopelle, je pense à tes travaux de mosaïque. Est-ce qu'on te compare? Est-ce que tu te compares?
De se comparer... Je sais pas, parce que c'est deux réalités totalement différentes. Par contre, je pense que c'est important de regarder en arrière, puis de regarder les gens qui nous inspirent. En fait, puis effectivement, il opère dans sa manière de réfléchir.
Puis dans la prise de risque aussi, d'aller à l'étranger.
Il y a du risque. En fait, moi, ce risque-là, ce genre de risque-là, je le vois comme une ouverture vers le monde. C'est d'aller voir ailleurs, d'aller vivre des choses différemment pour pouvoir nous permettre de comprendre les bons et les mauvais côtés de où est-ce qu'on est, en fait. Tu sais, où est-ce qu'on habite. Ça m'a forcé aussi à être plus à l'aise avec certaines parties de moi-même. Que si j'étais peut-être resté ici, je ne serais jamais confronté à ça. On vit des choses, on associe des choses, et ces choses-là nous habitent, puis on revient ici et on est capable de coller les morceaux ensemble. Donc, de voyager comme ça, de rencontrer des gens et d'associer les choses, ça m'a permis de comprendre ma place dans le monde, en fait. Je pense que ce qui fait que je sois rendu là, c'est la persévérance, c'est l'adaptation, c'est le courage. Parce qu'on ne parle pas assez du courage, je pense. Parce que des fois, on a peur, des fois, il faut prendre des décisions. Donc, tu prends des décisions, t'avances, t'adaptes, t'acceptes que tu vas faire des erreurs. Tu sais, je veux dire, j'ai probablement fait des erreurs aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais fini d'apprendre.
Moi, je trouve ça beau d'entendre Manuel dire qu'il n'a jamais fini d'apprendre, même si sa carrière est déjà bien établie. Une chose est sûre, c'est que sa curiosité et son ouverture, bien, ça l'a aidé à faire sa marque dans le monde. OK, là, je vous amène complètement ailleurs. On s'est promené dans l'espace, sur les terrains de football américains, à travers les galeries d'art les plus prestigieuses au monde. Mais pour le dessert, je vous propose de revenir ici, au Québec, vous présenter quelqu'un qui, oui, rayonne à l'international, mais à travers sa propre cuisine. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui convergent à Montréal pour venir goûter ce qu'il fait chez nous.
Je pense qu'on a formé la culture gastronomique montréalaise autour du fait qu'on est différent, bon vivant, puis que c'est accueillant. Maintenant, moi, je fais partie de la classe un peu plus gastronomique, l'école d'après, mais je pense qu'on a remis Montréal sur la map aussi sur le côté gastronomique. On offre tellement de diversité que Montréal est clairement une des meilleures destinations pour aller manger dans le monde.
En 2016, Antonin est désigné comme grand de demain par le Go Emilio, un prix reconnu au niveau international. Ce qui distingue le chef propriétaire du Mousseau, bien, c'est sa volonté de réinventer les codes de la gastronomie, rien de moins.
C'est toujours trois éléments. Par plat. Puis on va avoir oursin, érable, noisette.
Parce que toi, tu as trouvé qu'il y avait...
Moi, dans ma tête, je suis capable de faire le lien, puis de faire de l'agencement. Puis depuis qu'on a commencé le restaurant, le nombre de recettes fuckées que j'ai faites, j'ai les ai dans ma tête. Pas dire ça, ça paraît un peu grosse tête, mais je sais qu'est-ce que les choses vont goûter quand ils vont être ensemble.
Même si tu n'essaies pas. Tu veux dire, tête de violon et...
je vais te donner un exemple. Là, j'ai fait un dessert, puis qu'on l'a en ce moment aussi. C'est sang de cochon, échalote, puis vinaigre balsamique à la pomme.
Quand j'entends Antonin me décrire ses recettes, premièrement, je capote, mais je me dis aussi que c'est pas étonnant que son restaurant soit régulièrement sélectionné parmi les meilleurs au Canada, puis qu'il soit cité dans les médias partout dans le monde. Ce gars-là, c'est un anticonformiste, c'est un passionné, c'est un créatif, autant au niveau de sa cuisine que de son parcours.
Moi, je viens pas du pied de cochon stocké ou du Joe Beef. OK? À l'époque, c'était comme les trois écoles où tu sais, t'as l'école de cuisine, puis après ça, t'as l'école où tu vas travailler, de où tu sors. Les gens qui sortaient de ces places-là ouvraient des restaurants. Il y avait la crédibilité d'avoir travaillé dans une de ces places-là. Moi, j'ai pas mon THQ, j'ai jamais travaillé dans ces trois places-là. Ils savent pas je suis qui. Quand tu ouvres un restaurant, que la première année, tu reçois le meilleur prix de Go Emilio, qui est un peu l'équivalent des Michelin, une petite coche en dessous, je suis plein tout le temps. On parle de moi, j'ai des critiques de 5 étoiles, je veux dire, je rafle tout cette année-là. Ça fait que les yeux sont sur moi. Soit je chie dans la pelle, soit je rush comme un maudit malade, puis j'y arrive.
T'as-tu de la vision à l'époque ou c'était de l'ambition?
Je pense que c'était de la bonne ignorance. Dans le sens que je me fais que... Une naïveté confiante. C'est une ambition intérieure qui vient de la confiance que j'ai en moi. Puis le fait de ne pas me prendre au sérieux. Des fois, je fais mes services en gougoune avec des boblins. J'aime ça, avoir l'air de rien, puis sortir du lot. Ça, c'est de l'ambition cachée d'une certaine façon, parce que au lieu de montrer que j'arrive avec mes grosses bottines, c'est moi qui va gagner. Non, non. Toi, t'arrives avec tes grosses bottines, OK. Puis moi, je suis comme ça. Puis finalement, qui gagne? C'est moi.
Ce que je retiens de mes rencontres aujourd'hui, c'est que de percer à l'international, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend de la patience. Puis c'est d'une certaine façon un privilège parce que ça nous permet de voir d'autres cultures, d'autres façons de faire. Puis ça, ben ça raffine notre art. Que ça soit des sculptures, piloter des rovers ou ben donc faire de la cuisine en gogoon. Au prochain épisode, on découvre une nouvelle facette de l'ambition. Celle qui émerge quand ça va mal. Ce que je veux comprendre, c'est comment des gens réussissent à persévérer envers et contre tout. On va aller à la rencontre de gens résilients, des gens qui vont nous prouver que, parfois, c'est dans l'effort qu'on se dépasse pour vrai. On se retrouve bientôt au cœur de l'ambition.